Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. L'heure du journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Comment empêcher les migrants d'entrer dans l'Union européenne? Plusieurs demandeurs d'asile retenus dans des camps de détention libyens vont être évacués vers le Rwanda conformément à un accord conclu ce matin entre Kigali et l'Union africaine.
Dans votre journal également, Google dans le collimateur de 50 procureurs américains. Les ministres de la justice de la quasi-totalité des États ont annoncé hier l'ouverture d'une enquête antitrust.
Oui, l'entreprise est accusée notamment de dominer tous les aspects de la publicité et de la recherche sur Internet.
Dans votre journal, toujours, nous irons à Bruxelles où le suspense monte, tandis que la toute nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'apprête à dévoiler les portefeuilles des 26 membres de son équipe.
Et puis en France, nous reviendrons tout d'abord sur l'examen du projet de loi bioéthique qui inclut notamment la PMA qui débute aujourd'hui en commission. Enfin, alors qu'une audience en référé se tenait ce matin au tribunal de grande instance de Paris pour tenter d'empêcher la sortie du livre de Tariq Ramadan, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Françoise Laborde, journaliste, écrivaine et ancienne membre du CSA de 2009 à 2015. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et une traversée intellectuelle du siècle avec notre invité, le sociologue Edgar Morin, qui part à la rencontre de ses souvenirs à 98 ans.
Merci et à tout à l'heure. Voilà plusieurs années maintenant que l'on sait l'Union européenne déchirée sur la question des demandeurs d'asile africains. Or voilà que l'on apprend ce matin qu'un accord conclu entre Kigali et l'Union africaine va permettre donc d'évacuer vers le Rwanda des migrants actuellement retenus dans des camps de détention libyens et ainsi s'assurer qu'ils n'entrent pas évidemment sur le vieux continent. Eric Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors même si l'accord a été conclu ce matin entre le Rwanda, donc l'Union africaine et le HCR, on imagine que l'Europe n'est sans doute pas totalement étrangère à la manœuvre, tout d'abord parce qu'elle est évidemment la première intéressé pour tenir bien à distance du continent les demandeurs d'asile et puis parce que déjà par le passé, l'UE s'est arrangé avec d'autres pays, on citera pêle-mêle la Turquie, le Niger ou bien encore la Libye, quoi qu'il en soit. Ce nouvel accord, Eric, donc entre le Rwanda et l'Union africaine ne fait que renforcer en somme une politique moralement périlleuse.
Oui Thomas, alors pour le moment il s'agit d'un simple protocole d'accord qui a été signé à Addis Abeba ce matin entre le Rwanda, l'Union africaine, vous l'avez dit, et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Cet accord stipule que le Rwanda accueillera ces prochaines semaines et sur la base du volontariat des intéressés, environ 500 personnes, des demandeurs d'asile actuellement détenus dans les camps de rétention libyens. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il y aurait actuellement 4700 personnes détenues en Libye dans ces camps, dans des conditions souvent très très dures. Certains ont même été directement bombardés ces derniers mois durant les échanges de tirs dans les faubourgs de Tripoli. Les 500 migrants qui pourraient trouver refuge temporairement au Rwanda sont essentiellement des jeunes ou des personnes particulièrement vulnérables et en provenance de pays de la Corne de l'Afrique, précise le HCR dans son communiqué de ce matin. À terme, les 500 évacués vers le Rwanda devraient pouvoir, au terme du protocole d'accord toujours, soit bénéficier d'un transfert vers un pays tiers, soit d'un accueil dans un pays leur ayant accordé l'asile, soit d'une aide au retour dans leur pays d'origine si celui-ci est considéré comme un pays sûr. Le Haut-Commissariat aux réfugiés lance également un appel à la communauté internationale à contribuer financièrement à la mise en œuvre de ce dispositif. De sources onusiennes, on explique que l'Union européenne devrait faire partie des financeurs et qu'elle est de toute manière le principal soutien financier des actions du HCR en Afrique. Un pareil mécanisme d'évacuation de migrants coincés en Libye a été mis en œuvre depuis 2 ans par le HCR avec le Niger. 2900 réfugiés ont ainsi été transférés de Libye vers le Niger, essentiellement vers les camps d'Agadez dans le nord du pays. L'Union européenne a été le principal financeur de ce dispositif nigérien.
Merci Eric Biegala. 6 gendarmes de retour d'une mission de ravitaillement ont été tués hier dans le nord du Burkina Faso selon des sources sécuritaires. Une embuscade qui survient au lendemain d'une double attaque qui avait fait 29 morts et 6 blessés. Les géants de la tech dans le viseur de la justice américaine. Hier, les ministres démocrates comme républicains d'une quarantaine d'États américains, à l'exception de la Californie, ont officiellement lancé une vaste enquête sur la gestion des données personnelles des utilisateurs ainsi que sur les pratiques commerciales de tous ces grands groupes qui dominent aujourd'hui la publicité en ligne. En clair, cette investigation doit déterminer si ces entreprises ont eu recours à des pratiques anticoncurrentielles pour étouffer donc la concurrence et restreindre l'accès à leurs plateformes. Alors c'est vrai que depuis le scandale Cambridge Analytica, l'an dernier, Google et Facebook notamment sont soumis à une attention toute particulière de la part des gouvernements, tant aux États-Unis d'ailleurs qu'en Europe, concernant l'usage des données personnelles. Autrement dit, le fond de l'affaire n'est ici pas véritablement nouveau. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez rare qu'une procédure soit engagée par des procureurs, qui plus est lorsqu'ils représentent la quasi-totalité des États américains. Les précisions d'Omar Waman.
C'est devant les colonnes de la Cour suprême à Washington que la conférence de presse s'est tenue. Dans le collimateur, le géant du numérique, Google. De nombreux consommateurs pensent qu'Internet est gratuit. Ken Paxton, procureur général du Texas. Mais au regard du chiffre d'affaires réalisé par Google, qui est de l'ordre de 117 milliards de dollars, on peut dire que ce n'est pas le cas. Google, accusé d'utiliser son moteur de recherche à son propre profit avec des risques de manipulation de données personnelles à des fins commerciales, mais également politique. Alain Bensoussan, spécialiste du droit du numérique.
Oui, c'est inédit avec à ce niveau d'ampleur. Il est évident qu'aujourd'hui, les algorithmes et les données personnelles constituent une utilisation qui est parfois liberticide.
À l'approche des élections présidentielles de 2020, le sujet est devenu très politique. Les affaires se multiplient. L'été dernier, c'est Facebook qui a été condamné à une amende de 5 milliards de dollars pour défaut de protection des données personnelles de ses utilisateurs.
Si en dévoilant dimanche dernier avoir été sur le point d'accueillir les chefs des talibans sur le sol américain, Donald Trump aura montré une nouvelle fois qu'il était prêt à rencontrer ses pires ennemis, force est de constater que cette stratégie n'aura jusqu'ici pas véritablement porté ses fruits. Ce matin encore, les talibans ont averti que les combats continueraient en Afghanistan si les États-Unis abandonnent les discussions sur un retrait de leurs troupes, comme l'a déclaré le locataire de la Maison-Blanche en affirmant qu'elles étaient terminées. Pour de bon. S'agissant cette fois-ci de la Corée du Nord, on se souvient que Donald Trump avait surpris tout le monde en acceptant l'an dernier de rencontrer le dictateur Kim Jong-un. Un dialogue certes inédit, mais qui depuis s'est soldé par un échec. Et ce matin, quelques heures seulement après avoir proposé aux États-Unis de reprendre les négociations sur son programme nucléaire, Pyongyang a tiré deux projectiles non identifiés. Étant entendu que le terme de projectile est généralement employé pour qualifier des missiles à courte portée. De son côté, la chef de l'exécutif Hong Kong a mis en garde ce matin Washington contre toute ingérence dans sa gestion de la crise qui ébranle l'ex-colonie britannique, et ce alors que des manifestants pro-démocratie ont récemment exhorté les États-Unis à accroître la pression sur Pékin. Carrie Lam, qui concentre sur elle toute la colère des manifestants, a affirmé que tout changement dans ses relations économiques avec Washington menacerait leurs intérêts mutuels. Les députés italiens ont accordé leur confiance hier au nouveau gouvernement formé par le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui, ce sera au tour du Sénat de se prononcer, un vote qui s'annonce déjà plus délicat dans la mesure où Giuseppe Conte dispose d'une majorité nettement moins confortable. La sortie programmée du Royaume-Uni de l'UE le 31 octobre prochain est désormais plongée dans la plus totale incertitude depuis que les travaux au Parlement ont été suspendus jusqu'au 14 octobre, conformément à la décision du Premier ministre britannique. Hier soir, lors d'une séance encore houleuse au milieu des chants et des protestations acrimonieuses de l'opposition, Boris Johnson, obstiné dans sa volonté de forcer un Brexit à tout prix, a assuré qu'il ne demanderait pas de nouveau report, et ce, en dépit d'une loi pourtant votée en ce sens par le Parlement, avec l'assentiment qui plus est de la reine. Enfin, pour ne rien gâcher à ce bras de fer que se livrent à présent Boris Johnson et les anti-no deal, John Bercow, le président conservateur de la Chambre des communes, personnalité incontournable de la scène parlementaire britannique, a lui annoncé qu'il quitterait ses fonctions plus tard le 31 octobre. Alors avec toute cette actualité, qu'il s'agisse donc du Brexit, de la crise migratoire, mais aussi des tensions commerciales provoquées par l'imprévisible Donald Trump, ou bien encore du changement climatique, on le voit, les défis qui attendent l'Europe sont multiples. Autant d'enjeux qui auront en partie sans doute rendu difficiles les tractations autour de l'attribution des portefeuilles des 26 membres de la nouvelle Commission européenne. Toute la matinée, le suspense est monté à Bruxelles avant que la première femme à diriger l'institution, Ursula von der Leyen, ne finisse donc par distribuer les rôles de chacun pour les 5 années à venir. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles, alors la tâche s'annonçait complexe. On savait déjà qu'Ursula von der Leyen était parvenue à remplir au moins l'une de ses promesses, la quasi-parité homme-femme, une première d'ailleurs dans l'histoire de l'institution. Restait donc, Angélique, un ultime exercice, non moins délicat, distribuer ses portefeuilles, qui sont les heureux élus.
Alors comme ça l'avait été décidé par les dirigeants européens lors de sa nomination, Ursula von der Leyen, issue de la droite européenne, va partager son pouvoir avec deux vice-présidents particulièrement puissants, deux commissaires sortants, le socialiste néerlandais Frans Timmermans, qui hérite du climat dont elle diffère une priorité, et la libérale danoise Margrethe Vestager, hein, qui garde le portefeuille portefeuille de la concurrence, mais qui hérite du numérique. Et tous deux auront de très gros portefeuilles et chapeauteront, vient-elle d'expliquer lors d'un point de presse, plusieurs commissaires. La France obtient le marché intérieur, mais conduira aussi la politique industrielle et s'occupera de défense et d'espace. C'est un portefeuille vraiment très large qui a été négocié jusqu'à la dernière minute. La centriste Sylvie Goulard, qui l'occupera, ancienne eurodéputée, sera donc en charge notamment de la libre circulation des biens et des personnes avec la perspective du Brexit à gérer. Et puis dans le cadre de cette stratégie industrielle nouvelle que porte la France, elle aura aussi le dossier des normes et puis la défense essentielle dans la stratégie d'Emmanuel Macron. L'Italie, malade de ses finances mais de retour dans le giron européen, se voit attribuer là aussi un portefeuille influent. L'économie, c'est un vrai signal politique envers ce gouvernement qui ne cède pas aux populistes. L'Autrichien s'occupera, lui, du budget et l'Irlandais, Phil Hogan, du commerce. C'est important aussi dans le cadre du Brexit. Enfin, c'était déjà annoncé, c'est un Espagnol, Josep Borrell, qui incarnera la diplomatie européenne. Voilà, pour la plupart de ces postes, c'est une équipe à haut niveau de compétences avec de nombreux anciens eurodéputés, plusieurs anciens ministres et premiers ministres et puis huit commissaires qui rempilent dans la nouvelle équipe.
Alors après la présentation de cette nouvelle équipe, tous ses membres devront encore être auditionnés par le Parlement européen. Une étape décisive car par le passé, on a déjà vu des prétendants mis sur le grill et finalement écartés par les eurodéputés. Or dans cette nouvelle commission, on le sait Angélique, certaines désignations provoquent des grincements de dents.
Ah oui, le processus n'est pas clos, loin de là. Les commissaires, vous l'avez dit, vont passer cette étape avec un échange écrit avec les eurodéputés, puis des auditions publiques très poussées de 3 heures devant les commissions parlementaires en charge du portefeuille du commissaire interrogé. Les députés peuvent alors émettre des réserves et retoquer en quelque sorte le ou la candidate. Ursula von der Leyen doit alors revoir sa copie. C'est assez courant. En 2004, par exemple, le candidat italien avait été renvoyé chez lui en raison de propos homophobes tenus dans le passé. La liste complète au bout de ce processus validé par tout le monde doit alors faire l'objet au final d'un vote solennel en session parlementaire. Ce sera à Strasbourg le 22 octobre pour une prise de fonction le 1er novembre prochain.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Après 2 semaines d'audition, les 72 députés de la commission spéciale entament à partir d'aujourd'hui l'examen du projet de loi bioéthique, des débats centrés notamment sur l'extension de la PMA qui promettent des éclats de voix. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors les promesses de ne pas refaire le match du mariage pour tous ressemblent déjà et de plus en plus à un vœu pieux tant le sujet est aujourd'hui clivant. En revanche, assez curieusement, les divisions ne se limitent pas, comme on aurait pu le croire, à une simple bataille droite-gauche. Les convictions, mais aussi les doutes, voire les contradictions, subsistent, Stéphane, au sein même de chaque formation.
Oui, en dehors du groupe de députés de la France Insoumise, toutes les autres formations politiques sont divisées sur l'extension de la procréation médicalement assistée et elles ne donneront pas de consigne de vote, laissant chacun libre de se déterminer en conscience. Il y a plusieurs explications à cela. Premièrement, c'est un sujet qui touche à l'intime, à des convictions, à des expériences personnelles. Et puis, au-delà de la simple autorisation de la PMA, il y a tout un tas de questions annexes, notamment celle du remboursement par la Sécurité sociale. Les députés ont d'ores et déjà déposé plus de 2000 amendements sur la PMA et sur toutes les autres dispositions du projet de loi. Deuxièmement, le contexte politique a beaucoup changé depuis 2013 et l'hystérisation du débat autour du mariage pour tous. À l'époque, le projet de loi qui autorisait le mariage des couples homosexuels était porté par un président et un gouvernement de gauche. François Hollande en avait fait un emblème idéologique et la droite, notamment la droite catholique et conservatrice, avait perçu cette réforme sociétale comme un combat de la gauche destiné à l'humilier et à la soumettre. Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, c'est différent. Déjà, il a montré des signes de considération en direction de la communauté catholique, en particulier au moment de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a eu des consultations organisées au cours des derniers mois avec tout un tas d'associations, notamment les associations catholiques. Ça a permis de poser un peu les choses. Et puis, il y a aujourd'hui une volonté de porter le débat sur des questions techniques, scientifiques, beaucoup plus que sur des questions idéologiques. C'est en ce sens que les députés La République En Marche à l'Assemblée ont eu pour consigne de ne surtout pas s'enflammer lors des débats, de moins faire parler leurs émotions que leur expertise. Enfin, troisièmement, on peut aussi faire ce constat que la société française a évolué depuis 2013. 65%, 2/3 des Français sont aujourd'hui favorables à la PMA, selon une enquête réalisée par l'Institut BVA. C'est comme si l'adoption du mariage pour tous avait fait franchir un seuil, un cap à la société française. Ce qui fait que même s'il y aura des contestations et des éclats de voix, les débats seront peut-être moins houleux, moins clivants et à coup sûr moins idéologiques qu'il y a 6 ans.
Merci Stéphane Robert. Les enseignants du primaire en France sont moins bien payés que leurs homologues occidentaux. Voilà ce qui ressort du rapport annuel sur l'éducation. formation publiée ce matin par l'OCDE. En milieu de carrière, un prof des écoles en France gagnerait 18% de moins que la moyenne des pays développés. La France est en revanche plus généreuse en ce qui concerne les professeurs du secondaire. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous venez d'assister donc à la présentation de ce rapport. Comment expliquer, Hakim, cet écart donc entre le primaire et le secondaire ?
Eh bien, cet écart, il s'explique tout par le fait que les enseignants du secondaire ont accès à des primes, à des heures supplémentaires. Il y a aussi le niveau de diplôme qui compte. Par exemple, un enseignant agrégé touche plus que son collègue qui ne l'est pas. Alors que dans le primaire, les enseignants qui ont 26 heures devant élèves n'ont pas forcément accès aux primes et aux heures supplémentaires. Alors, cela ne veut pas dire que les enseignants du secondaire travaillent moins. Bien au contraire, car il faut ajouter le temps de préparation et de correction des copies qui peut prendre de 20 à 30 heures de plus. Du coup, l'OCDE insiste aussi sur les écarts en termes de carrière, car un jeune enseignant français du primaire, eh bien, par rapport au pays de l'OCDE, l'écart n'est que de 7%. En revanche, au bout de 10 ans d'enseignement, la différence par rapport aux autres enseignants est de 20%. Jean-Michel Blanquer se dit conscient du phénomène et va donc lancer un observatoire des salaires dès la rentrée pour tenter d'y remédier. Ce qui est déjà acté, en tout cas, Thomas, c'est que les enseignants en zone d'éducation prioritaire auront, eux, dès cette année, une prime de 2000 euros par an.
Et puis, s'agissant cette fois-ci de l'enseignement supérieur, Hakim, il ressort toujours de ce rapport que le taux de diplômés en France serait légèrement supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE.
Oui Thomas, la moyenne des pays de l'OCDE de diplômés est de 44%. Et bien pour la France, c'est 47%. Ces bons résultats s'expliquent notamment par le fait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés dans les filières courtes, ce qu'on appelle les BTS, les IUT ou encore les filières professionnelles. Un savoir-faire français dont d'ailleurs de nombreux pays d'Europe tentent de s'inspirer, comme l'Italie par exemple. En revanche, et c'est plus surprenant, seulement 32% des jeunes Allemands sont diplômés par rapport à la France. Donc pour une fois, c'est nous qui sommes en avant par rapport aux pays du Nord. Au-delà de ça, l'OCDE insiste aussi sur le fait qu'il y a un grand écart, notamment au niveau du taux des jeunes diplômés, car la France là aussi se positionne bien, du fait d'avoir des jeunes diplômés qui sont à 47%. Vous avez 85% des jeunes diplômés français qui trouvent du travail, le chiffre atteint les 76% au lycée, et tout de même 51% pour des jeunes français qui ne sont pas diplômés. En revanche, la France est moins bonne en termes d'inégalité, car en France, seulement 17% des enfants dont les parents n'ont pas de diplôme atteignent un niveau supérieur avec un diplôme.
Merci Hakim Kasmi. L'audience en référé pour empêcher l'apparition du livre de Tariq Ramadan se tenait ce matin à huis clos devant le tribunal de grande instance de Paris. Un huis clos pour préserver en l'occurrence l'identité de la plaignante. L'une des femmes qui accuse aujourd'hui Tariq Ramadan de viol ne souhaite pas en effet que sa véritable identité apparaisse dans le livre écrit par le suspect et dont elle espère encore empêcher l'apparition prévue demain. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Dans ce livre intitulé « Devoir de vérité », Tariq Ramadan révèle en effet l'identité de cette femme.
Selon l'avocat de cette femme, son identité est révélée à 84 reprises par l'auteur. Christelle, c'est son surnom dans les médias, accuse Tariq Ramadan de l'avoir violé dans une chambre d'hôtel à Lyon il y a 10 ans. Il a été mis en examen pour cela. Dans un premier temps, il a nié tout rapport sexuel avant de reconnaître aujourd'hui une relation consentie. Dans cet ouvrage, Tariq Ramadan livre sa version des faits, la manière dont il a vécu cette affaire qui lui a valu de passer 10 mois en détention provisoire. Il y fait un parallèle audacieux entre son histoire et l'affaire Dreyfus. Rappelons que Tariq Ramadan est mis en examen pour 2 viols en France. Il est également accusé par 2 autres femmes de viol, dont l'un en réunion. Il est enfin accusé d'un autre viol en Suisse. Il doit à ce sujet être entendu cet automne à Paris par un procureur de Genève. Pour l'avocate de Christelle, la révélation de l'identité de sa cliente va à l'encontre de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet article interdit de diffuser des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle. L'avocat demande que le nom de sa cliente soit remplacé dans le livre par son pseudonyme Christelle.
Et pour continuer donc d'évoquer ce sujet, invité de la rédaction aujourd'hui, Françoise Laborde, journaliste mais également écrivaine et ancienne membre du CSA de 2009 à 2015. Bonjour madame.
Bonjour.
Elle est toujours à mes côtés pour vous interroger, Antoine Marette. Une première question, madame Laborde. En quoi cette affaire Tariq Ramadan est-elle emblématique au fond de la place aujourd'hui, de la parole des femmes donc dans les affaires d'agression sexuelle?
C'est révélateur du fait que les victimes sont punies d'une certaine façon. Voyez ces jeunes femmes victimes qui se plaignent d'avoir été violées par Tariq Ramadan. Alors on connaît une d'entre elles, puisqu'elle a dit publiquement, Inda Yari, qui est harcelée en permanence. Il y a encore eu hier ou aujourd'hui même, je crois, quelqu'un qui la suivait régulièrement et qui a été interpellé. L'autre, Christelle, dont on diffuse le nom, et par-dessus le marché, Monsieur Ramadan se compare au capitaine Dreyfus. Et franchement, l'indécence se dispute à la perversité. Et on est là vraiment dans la logique du harceleur et dans la logique du violeur. C'est-à-dire que il y a cette espèce de sentiment d'impunité et qui fait que les victimes, elles n'osent pas porter plainte. Parce que c'est un enfer ce qu'elles vivent après. Parce qu'elles sont montrées du doigt. Et même quand la justice leur donne raison après, elles sont marquées du sceau de l'infamie. Et c'est sur ça que joue Tariq Ramadan. Et c'est ça qui est véritablement à vomir. Alors, bien sûr, on peut arguer de la liberté d'expression, le droit à écrire un livre, blablabla. Sauf que, à un moment donné, j'allais dire, il profite d'une liberté du droit qui fait que le secret de l'instruction ne s'applique pas à lui, ne s'appliquerait qu'à son avocat. Mais enfin, c'est d'une indécence absolue. Et puis, il livre quand même des éléments. Quand il dit que, selon lui, les conclusions d'un brigade criminelle innocente complètement. Donc, tout ça est d'une perversité, d'une indécence absolument confondante. Et c'est typique du comportement des agresseurs.
Une question d'Antoine Marette.
Le tribunal populaire et le tribunal médiatique m'ont déterminé comme coupable. Ce sont les mots de Tariq Ramadan. Est-ce que dans cette affaire, il n'y a pas un décalage entre le souhait d'anonymat de cette victime présumée et le droit à la présomption d'innocence du suspect qui est connu de tous et de façon controversée ?
Oui, non. J'allais dire, d'abord, la vérité médiatique, c'est pas la vérité judiciaire. On est bien d'accord là-dessus. Mais à partir du moment où un personnage public comme Tariq Ramadan passe son temps à se présenter comme la quintessence de la vertu, la...
Françoise Laborde, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, parfaitement. Pourquoi vous m'entendez plus ?
On a une petite coupure, mais on vous entend bien désormais.
Ah bon, pardon. J'allais dire, dans le cas de Tariq Ramadan, à partir du moment où on se présente comme le symbole absolu de la vertu, le symbole absolu de la référence d'une pratique religieuse orthodoxe, le symbole absolu de la pureté, j'allais dire, on ne peut pas se permettre non plus de venir au bout de 6 mois en disant « Ah ben excusez-moi, finalement, oui, j'ai menti, oui, d'accord, j'avais des relations extra-conjugales, mais j'ai violé personne. » Je veux dire que oui, en effet,
Ça n'est pas une question de justice que vous abordez, c'est une question d'image de médias.
Oui, mais on ne peut pas se plaindre en même temps de se mettre en permanence en avant dans les médias en se présentant comme un parangon de vertu. Et après, quand on est pris de voir, si je puis dire, quand on est convaincu d'avoir fauté, dire « Ah oui, mais je suis victime du tribunal médiatique ». Si vous restez dans l'anonymat, on reste dans l'anonymat. Monsieur Tariq Ramadan n'a jamais revendiqué l'anonymat pour lui-même. Jamais. Et par ailleurs, c'est lui qui livre au public le nom de ses victimes. Donc c'est ça qui est absolument intolérable.
Pour vous, il souhaite en fait faire pression, intimider ces femmes, cette femme ?
Il fait pression et les intimide. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des conversations avec Enda Ayari, notamment, qui a été victime et qui a publié un livre là-dessus. Donc il fait pression. Et puis cette façon de divulguer le nom, c'est une façon de faire pression sur des futures victimes, des femmes qui auraient été violées par lui et qui n'osent pas justement porter plainte en se disant « mon nom va être divulgué ». C'est ça qui est gravissime. C'est que ces femmes-là, elles n'ont même pas la justice pour les protéger, puisque la personne qu'elles accusent d'avoir été violent à leur égard et de les avoir agressées sexuellement, c'est juste que leur nom systématiquement. C'est ça la honte.
Est-ce que pour vous, la justice doit certes protéger les victimes, elle doit aussi protéger la présomption d'innocence ? Il y a la loi de 1881, à l'époque il n'y avait ni Internet ni réseaux sociaux. Est-ce que l'anonymat d'une personne très exposée, comme peut l'être une femme qui accuse Tariq Ramadan de viol, est-ce que cet anonymat n'est pas désormais impossible avec à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux ?
C'est évident que c'est beaucoup plus difficile. Mais si le droit doit céder devant la puissance des réseaux sociaux, permettez-moi cette facilité de langage, on est mal barré. Il n'y a aucune raison, parce qu'en effet il y a des réseaux sociaux, parce qu'en effet les noms circulent assez facilement, que les règles de droit ne puissent plus s'appliquer. J'allais dire, il faut au contraire être encore plus sévère, encore plus intransigeant sur ces questions-là aujourd'hui, parce que précisément c'est trop facile. Alors, il suffit, en effet, quand on est accusé d'un crime grave, d'écrire un livre et d'écrire dans ce livre « Je suis parfaitement innocent et on me fait un procès qui est parfaitement démesuré » pour que ça vaille, ça l'emporte sur la parole des victimes. C'est ça qui est gravissime.
Ça pourra le desservir devant la justice.
Pardon ?
Ça pourra le desservir devant la justice, ces propos.
Alors, évidemment, il y a des précédents. On n'a jamais vu quelqu'un qui était mis en examen prendre la parole publiquement pour dire « j'en suis innocent ». Et en général, les juges, en effet, détestent ce type de procédé. Et d'ailleurs, ce serait son avocat qui parlerait, où il aurait diffusé des pièces de l'instruction. Je pense qu'il serait soumis, en effet, à être condamné au titre du secret de l'instruction.
Et merci. On terminera par ces mots. Merci Françoise Laborde, journaliste, écrivaine et membre donc du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Antoine Marette. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi marqué par des éclaircies au nord et un ciel nuageux et pluvieux au sud. Les températures, elles afficheront entre 17 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.